j'ai fait l'effort pour aujourd'hui d'une construction spécifique sur la jeunesse en milieu rural, puisque ce que j'expliquais tout à l'heure à plusieurs de mes collègues, c'est que je ne suis pas forcément spécialisé sur cette question en milieu rural uniquement. Je regarde la jeunesse plutôt de manière générale et je l'examine aussi dans ses comportements au filtre des différentes catégories spatiales, dont bien sûr l'espace rural. Alors, si les recherches sur les enfants et les jeunes se sont considérablement développées depuis 2 ou 3 décennies dans le champ des sciences humaines et sociales, c'est qu'elles répondent aussi à une vraie préoccupation sur le développement des sociétés contemporaines et qu'elles s'inscrivent au cœur des enjeux éducatifs, sociaux, économiques, mais aussi politiques de ce début du XXIe siècle. Alors, les contextes de vie de ces jeunes sont particulièrement variés à l'échelle d'un pays comme le nôtre, et rendent en fait les conditions du développement individuel, les modalités de la socialisation et les politiques de prise en charge des publics jeunes très diversifiées d'une région à l'autre. La prise en considération du bien-être des enfants et des jeunes constitue aujourd'hui un enjeu d'avenir dans la mesure où elle détermine aussi les possibilités de développement et de renouvellement de nos sociétés. Alors, les préoccupations relatives à la jeunesse ne se posent pas évidemment partout de la même façon, dans les mêmes termes. Dans nos sociétés occidentales vieillissantes, où les conditions de vie des populations peuvent apparaître globalement homogènes, la place des enfants et des jeunes appelle des réflexions et des analyses sérieuses sur leurs pratiques et leurs comportements pour comprendre notamment l'impact des évolutions contemporaines, qu'elles soient démographiques ou socio-économiques, sur les conditions à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement social. Les différentes études qui portent sur la jeunesse, au moins dans le domaine de la géographie et des sciences sociales en général, révèlent en fait des disparités assez importantes dans la prise en charge de ces publics, en fonction notamment des espaces de vie des populations, voire des inégalités dans l'accès aux ressources et aux services dans l'environnement quotidien immédiat, qui sont perceptibles à travers leurs pratiques et leurs comportements. En fait, 2 questions intéressantes peuvent être portées au débat dans ce propos. N'y aurait-il pas un effet de contexte territorial sur les opportunités offertes aux jeunes et par conséquent sur les ressources qu'ils peuvent ou non mobiliser pour répondre à leurs besoins éducatifs, sociaux, culturels? Et dans quelle mesure l'analyse des politiques locales éclaire-t-elle ces disparités? C'est donc autour de cette dialectique pratique sociale, d'une part, et réponse politique, d'autre part, que je souhaite aborder la prise en compte de la jeunesse dans la définition des politiques locales. Alors, il convient de commencer par préciser les contours de mon intervention pour que nous posions précisément ensemble les limites de l'objet de réflexion. Plusieurs thèmes de l'intitulé méritent un retour par à la fois quelques définitions, très rapides, je vous rassure, et aussi des postures de recherche. Qu'appelle-t-on jeunesse tout d'abord ? Première difficulté. On pourrait discuter longuement sur les seuils statistiques à retenir pour délimiter cette classe d'âge, sans, je crois, jamais être satisfait, et en tout cas sans doute jamais arriver à nous mettre d'accord au sein même de cette salle. Les débats sont multiples. Je ne souhaite pas les réouvrir immédiatement. D'abord parce qu'il y a aussi, quand on est géographe et qu'on veut faire un petit peu d'analyse géographique, c'est-à-dire la répartition des phénomènes qu'on observe dans l'espace, il y a aussi des considérations statistiques et d'accès aux bases de données de l'INSEE qui m'ont amené à me caler sur des classes d'âge quinquennales, d'abord, et en prenant les 10-24 ans dans mon champ de réflexion. Toutefois, force est de constater que les limites supérieures retenues pour définir la jeunesse aujourd'hui sont depuis plusieurs décennies régulièrement repoussées pour prendre en compte ce qu'Olivier Galland, mais de nombreux autres sociologues, appellent la prolongation de la jeunesse. Et ça nous donne en fait des limites assez malléables et évolutives qui se heurtent, là ce que je disais à l'instant, à une analyse statistique descriptive, ce qui explique le choix arbitraire de ces seuils. En ce qui concerne ensuite la définition des pratiques sociales, je souhaite m'intéresser ici au comportement des acteurs, donc les jeunes, y compris au sein de leur cadre familial. Ces pratiques, je vais les regarder dans leur relation à l'espace, contexte de leur action. Le terme de pratique renvoie également au mode de vie dans la mesure où l'on cherche à décrypter et comprendre les actions liées à la vie quotidienne, les activités habituelles et leur implication spatiale. Alors, on va resserrer le champ. Ces pratiques seront examinées dans le cadre du temps libre des jeunes et plus particulièrement de leurs loisirs. Ces deux termes appellent évidemment des précisions sémantiques et de ce point de vue, on a la chance, c'est qu'il y a un cadre théorique proposé par les sociologues qui est relativement riche et qui permet de le faire rapidement. Vous le savez comme moi, sans doute pour le mesurer au quotidien, nous sommes dans un contexte d'obsession et de rareté du temps et de sa meilleure utilisation possible. Dans ce contexte-là, le temps libre est bien celui qui est libéré de toute contrainte, notamment celles liées aux obligations scolaires pour les jeunes, aux obligations professionnelles et sociales pour ceux qui sont déjà dans un parcours d'insertion professionnelle et sociale. Le loisir, lui, renvoie davantage à la satisfaction de l'individu par la pratique d'activités diverses et variées, qui ont une valeur en soi pour l'individu et qui concourent à l'épanouissement et au développement de la personne. Selon Geoffre Dumas-Deuzier, qui est sans doute celui qui a écrit le plus sur le loisir, le temps libre, en sociologie en tout cas, le temps de loisir est aussi libératoire, désintéressé par essence, hédonistique et personnel. Alors, nous observerons les pratiques de loisir des jeunes ruraux dans le cadre de leur temps libre. C'est l'objet de cette réflexion. L'espace rural est entendu ici dans une acception assez classique, et vous ne m'en voudrez pas, j'espère, s'appuyant sur les catégories de l'INSEE, qui sont sans doute critiquables et moins performantes que d'autres typologies qui ont été essayées, je pense à celle de la CGESA par exemple, c'est-à-dire une catégorie qui s'appuie sur la typologie ZAUER, zonage en aire urbaine et rurale de l'INSEE, que j'ai pu travailler pour porter une extension plus spécifique aux communes ou aux espaces dits ruraux. Ainsi, et c'est important quand même, la posture retenue dans le cadre de cette communication part d'une démarche comparative de l'ensemble des communes du département d'études, on a parlé de l'Ille-et-Vilaine tout à l'heure, pour présenter les spécificités de l'espace rural dans cet ensemble départemental. Voilà, donc c'est une focale sur les communes rurales, mais dans le cadre de mon travail, moi j'ai travaillé sur l'ensemble du département et essayé de regarder si les pratiques étaient différentes d'un milieu à l'autre, d'une catégorie spatiale à l'autre. Bon, c'est pas tout à fait la même chose que de travailler spécifiquement sur le milieu rural, donc voilà. Cette communication s'appuie sur deux études récentes réalisées en partenariat avec le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Elles font l'objet aujourd'hui d'une exploitation plus approfondie dans le cadre d'un travail d'habilitation à diriger les recherches. Donc ces enquêtes ont été très lourdes. Elles ont été réalisées sur un temps de 2 années complètes. Et voilà, je suis dans la pleine exploitation de ces travaux. Donc vous avez en quelque sorte, je dirais, déjà les premiers éléments. Ces travaux ont été menés en 2007 et 2008. La première étude porte sur les pratiques sociales des familles. Alors c'est important parce que l'entrée choisie étaient les familles en matière de ce que j'ai appelé les activités et services socio-éducatifs pour leurs enfants, les enfants pouvant être âgés de 6 à 24 ans. Bien, j'ai exclu les moins de 6 ans, bon, sans doute parce que j'avais travaillé avant sur la petite enfance et que je repérais qu'il y avait des dynamiques spécifiques à cette tranche d'âge. Elle a été réalisée en 2007 et portait sur un échantillon de 500 familles et donc de 1300 enfants différents. La seconde s'intéresse aux politiques locales en faveur de la jeunesse à partir d'un corpus statistique assez vaste sur les différents services, activités offerts aux jeunes de 12 à 25 ans, mais aussi grâce à une enquête réalisée auprès des maires des communes du département en 2007-2008, à la fin du mandat précédent, du mandat municipal précédent, puisque c'était juste avant les élections, auprès de 284 communes sur les 352 que compte l'Ille-et-Vilaine, c'est-à-dire 80% de l'ensemble des communes du département. Donc la confrontation des pratiques d'une part et des politiques mises en œuvre à l'échelle locale d'autre part permet une compréhension assez intéressante des inégalités spatiales en matière de services et d'équipements à destination des jeunes, ainsi que de la prise en compte d'un âge de la vie dans la définition des politiques sociales locales. Nous l'aborderons en trois parties successives, hein, qui sont représentées ici, évoquées ici. D'abord, la présentation du contexte départemental et de ses enjeux. Je fais partie de ceux qui contextualisent. Deux, l'analyse des pratiques de loisirs des jeunes. On sera plus sur l'entrée des pratiques des individus. Et puis trois, la présentation des contextes territoriaux dans lesquels évoluent les jeunes ruraux, et notamment avec une analyse plus spécifique du volet politique. Alors, le contexte départemental et ses enjeux. Sur ce type de questions sociales, il apparaît opportun de replacer l'analyse dans son contexte démographique. C'est bien l'objet de cette première partie, et c'est là où je fais appel à une série de compétences que je mobilise régulièrement, qui est la question de la géographie de la population. C'est bien l'objet de cette première partie. Les évolutions démographiques récentes et les perspectives à 15 ou 20 ans mettent en exergue la jeunesse de l'Ille-et-Vilaine lorsqu'on la compare à d'autres départements français. Donc, première affirmation, l'Ille-et-Vilaine est bien un département jeune. Quelques données générales, je suis obligé d'aller rapidement. L'Ille-et-Vilaine en 2006, c'est 945 500 habitants. C'est le département le plus peuplé de sa région, la Bretagne. La croissance moyenne annuelle de ce département affiche un taux de 1,2% entre 1999 et 2006, avec tous les indicateurs démographiques au beau fixe, que ce soit sur le plan du solde naturel que du solde, ou du solde migratoire. Les projections réalisées par l'INSEE à l'horizon 2030 confirment la poursuite de cette tendance, puisque la croissance départementale annoncée est de 23% sur la période 2006-2030, là où la région n'enregistrerait qu'une progression de 12% et la France entière seulement 9%. C'est vous montrer quand même l'importance. Alors, on est bien sur des projections, scénario central. Vous savez comme moi que l'exercice a certaines limites quand même. Mais bon, ça donne quand même des tendances intéressantes, en tout cas dans leur dimension comparative. Il convient maintenant de porter notre attention sur l'évolution récente de la population jeune dans le département d'Ille-et-Vilaine. En 2007, données estimées les plus récentes fournies par l'INSEE, l'Ille-et-Vilaine compte 198 270 habitants âgés de 10 à 24 ans, ce qui représente 20,7% de la population départementale, là encore une proportion plus élevée que la Bretagne, qui affiche 18%, et la France 18,9%. L'évolution des effectifs depuis 1968 apporte une perspective diachronique intéressante, puisqu'elle révèle une croissance globale des jeunes durant les quatre décennies, même s'il faut noter un net recul entre 90 et 99, que l'on doit tout simplement au tassement important de la fécondité départementale entre 75 et 89. Il y a un effet de génération là qui joue. Sur l'ensemble de la période, ça représente un taux de croissance de 15,9%. L'Ille-et-Vilaine apparaît donc comme un département relativement dynamique, si l'on en juge l'évolution de ses effectifs d'habitants âgés de 10 à 24 ans. À l'échelle nationale, l'Ille-et-Vilaine appartient aux départements les plus jeunes. C'est le tableau qui est sur la droite. En effet, la part relative des jeunes, vous le voyez bien, diminue progressivement de 68 à nos jours. Ça veut bien dire que la population vieillit dans ce département comme dans de nombreux autres départements français. Néanmoins, la vitalité naturelle que j'évoquais précédemment lui vaut un très bon rang parmi les départements métropolitains quand on regarde cette catégorie d'âge, les 10-24 ans. Vous voyez que de 68 à 90, l'Ille-et-Vilaine a grimpé au palmarès des départements les plus jeunes pour atteindre le deuxième rang en 1990. En 2007, à partir des données de population estimées au 1er janvier, l'Ille-et-Vilaine reste dans le peloton de tête, mais rétrograde à la 8e place, ce qui est quand même une place honorable sur l'ensemble des départements français. Elle se fait devancer par l'essentiel des grandes régions urbaines, Val-d'Oise, Nord, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, on retrouve ces départements devant. La part des 10-24 ans recule depuis 90, mais demeure systématiquement au-dessus de la moyenne nationale. Toujours parmi les documents classiques dans l'analyse des catégories de population, l'analyse de la pyramide des âges nous apporte d'autres renseignements intéressants. On s'aperçoit que les 20-24 ans, excusez-moi, représentent ici les effectifs les plus nombreux sur l'ensemble de la pyramide, Les jeunes coïncident donc avec les classes modales, c'est-à-dire les plus densément fournies, les plus nombreuses, chez les femmes comme chez les hommes. Et cette bonne représentation des 20-24 ans ne s'explique pourtant pas, chose assez intéressante, par une évolution des naissances favorables, hein, mais sans doute par l'attractivité de l'agglomération rennaise, qui capte un nombre important de jeunes étudiants, ce qui participe directement à une surreprésentation des effectifs de cette classe d'âge par rapport aux autres, mais vous verrez, on le verra tout à l'heure dans d'autres tableaux. L'érosion régulière du nombre de naissances que le département a engendré sur la période allant de, en gros, de 80 au milieu des années 90 se répercute ensuite, on le voit bien, sur la partie basse de la pyramide des âges, hein, qui se rétrécit régulièrement, sauf sur la période la plus récente où là, la reprise de la fécondité à partir de 1995 semble laisser présager d'un renouvellement des classes d'âge les plus jeunes. L'Ille-et-Vilaine est donc encore un département jeune. Sa position globalement favorable à l'échelle nationale et régionale lui permet de maintenir un bon ratio entre les populations jeunes et les populations âgées. Et cet équilibre démographique est néanmoins fragile, car vous voyez bien que la pyramide des âges va quand même inévitablement renforcer sa partie sommitale, excusez-moi, par glissement générationnel. Alors, pour terminer, mais je ne suis pas allé vraiment dans le détail, j'avais les données, mais il a fallu que je fasse des choix aussi. Nous avons exploité les projections réalisées par l'INSEE à l'horizon 2020 et 2030. Dans les conditions du scénario central, l'Ille-et-Vilaine continuerait de bénéficier d'une croissance démographique forte, hein, et notamment par un apport migratoire essentiellement composé de jeunes, autre élément qui laisse présager donc d'un maintien de cette dynamique malgré le processus de vieillissement. Maintenant, le géographe regarde les choses dans leur espace. Nous sommes à l'échelle du département, juste parce que ça, c'est le béaba de départ. Donc Rennes est là, Saint-Malo est ici, Redon est ici, Vitré est ici, Fougères est ici. C'est juste parce que je vais utiliser ces principales unités urbaines pour des fois localiser les éléments. Bien, la distribution de la population jeune, vous le voyez tout de suite ici, n'est pas homogène à l'échelle départementale. Alors là, j'ai de la chance. Il y a 3 semaines ont été diffusées les données par l'INSEE de structure par âge à l'échelle communale. Bon, mais je suis tributaire de la première génération de données. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler sur une autre classe d'âge que la 15-24 ans. Donc vous m'excuserez, ça ne coïncide pas avec... Mais ça, ce sont les difficultés méthodologiques quotidiennes auxquelles sont confrontés ceux qui travaillent sur de l'analyse un peu spatiale. Donc je n'ai pris que cette classe d'âge-là, je ne peux pas descendre plus finement. Alors, on s'aperçoit d'un certain nombre de disparités. D'abord, une moyenne départementale, hein, cette carte est construite à partir d'une moyenne départementale, de 14,77% de 15-24 ans dans la population du département. Or, cette moyenne est située dans le haut de la distribution statistique, sous l'effet de Rennes, essentiellement, qui est de loin la commune concentrant le plus de jeunes, puisque c'est la seule qui arrive à 25% de 15-24 ans dans sa population totale. Le quart, hein, est âgé de 15 à 24 ans. Le pôle urbain rennais, vous le voyez bien sur cette carte, agglomère quelques communes périphériques où la part des jeunes est assez élevée. D'autres pôles urbains rejoignent ces caractéristiques, Vitré, Redon, Saint-Malo et Fougères, dans une moindre mesure. On voit bien aussi sur cette carte que les aires périurbaines, globalement, sont plus jeunes, avec des valeurs inférieures aux pôles urbains. Et sur les aires périurbaines, mais je ne peux pas le faire, hein, vous m'excusez avec les données de 2006, il serait intéressant de distinguer 2 sous-catégories dans ces 15-24 ans. D'abord, les 15-20 ans, dont on risque de retrouver une part beaucoup plus importante dans les aires périurbaines, tout simplement parce que la décohabitation du milieu familial n'a pas été effectuée, et donc elles sont là où résident logiquement leurs parents, leurs familles, et les pôles urbains, où là, la part des 20-24 ans sera, elle, beaucoup plus importante, puisque on est dans une phase de décohabitation, pas autonomie complète, mais au moins décohabitation, liée souvent à des motifs scolaires, universitaires, ou début d'entrée dans le monde professionnel. Donc je pense, mais là, je ne pourrais pas le vérifier avec les données à ma disposition, qu'on aurait des décalages, et on pourrait montrer que ce n'est pas le même type de jeunes qu'on a dans les aires périurbaines que ceux qu'on a dans les aires urbaines, notamment en lien à l'âge. Et des secteurs ruraux, pour nous centrer sur notre problématique, notamment les plus périphériques du département, où les valeurs diminuent sensiblement. Vous voyez bien que le nord-est, le sud-est, l'ouest du département sont sans doute les parties du département où la part des jeunes est la plus faible dans la population communale. Alors, en croisant cette lecture aux évolutions démographiques récentes, c'est l'autre tableau, force est de constater que les espaces ruraux sont ceux où la part des 15-24 ans est la plus faible. Ce phénomène est même constant dans la période allant de 1990 à 2006. La jeunesse se concentre bien dans les pôles urbains et le renforcement de la concentration est réel sur les deux dernières décennies. Vous voyez que les jeunes ruraux sont à la fois beaucoup moins nombreux, ils ne représentent que 11,1% du total, mais surtout, l'évolution récente montre une diminution régulière de ces effectifs, que ce soit dans les pôles ruraux d'ailleurs ou dans les communes rurales. Donc on est, de ce point de vue-là, sur une distinction spatiale relativement importante. Alors, il y a quand même une prise en compte de cette réalité démographique, notamment par le champ politique. Je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, mais la jeunesse d'un département, il est important pour moi qui m'intéresse aux formes de prise en charge des jeunes, de vérifier quelle est la prise en compte par notamment les institutions qui ont une compétence dans ce champ de la jeunesse, dans leur mise en œuvre d'une politique à l'échelle départementale. Bien, je ne vais me centrer que sur deux des principales institutions qui encadrent ces publics, notamment dans les réponses politiques apportées aux familles pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes. Le Conseil général, d'une part, dont le discours est volontariste sur les politiques jeunesse, puisque le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, au bénéfice d'ailleurs d'un changement de majorité politique en 2004, a affiché la jeunesse comme priorité d'action depuis 2005. Ça se traduit par plusieurs enjeux qui sont clairement identifiés ici. La volonté d'insertion de tous les jeunes, notamment les publics les plus défavorisés, insertion dans le sens le plus large du terme. On ne pense pas ici qu'insertion professionnelle, c'est bien insertion sociale, donc dans tous les champs qui caractérisent la jeunesse, dont le champ des loisirs, qui est aussi un vecteur d'insertion des publics jeunes. Et deuxième élément, mais qui renvoie à une question qu'on posait tout à l'heure, c'est aussi la valorisation de la place des jeunes dans la société. C'est comment on considère ces jeunes comme des acteurs potentiels de la dynamique de développement du département d'Ille-et-Vilaine et la volonté donc de la mettre au cœur des politiques. Ça s'est traduit simultanément, et c'est pas neutre dans ce qu'on va travailler, par une modification de la politique territoriale. Le Conseil général a dans le même temps essayé d'appuyer sa politique d'action sociale par tout un système de contrats de territoire avec les communautés de communes. C'est d'ailleurs pas le seul Conseil général qui a opté pour cette option depuis notamment 2004. Ça veut dire qu'elle contractualise pour mettre en place les objectifs de la politique départementale avec les communautés de communes et apporte son soutien financier au développement des projets qui rentrent dans le cadre politique départemental. Alors, c'est là où le bât blesse. C'est quand on regarde la première génération de contrats de territoire des communautés de communes en Ille-et-Vilaine, malgré le volontarisme politique affiché par le Conseil général, on s'aperçoit que sur les 29 contrats de territoire en Ille-et-Vilaine, seulement 5 affichent clairement des orientations en faveur de la jeunesse. Donc là, il y a un premier décalage entre la volonté politique affichée et la réalité de la mise en œuvre au plan territorial. Deuxième institution qui travaille dans le champ de la jeunesse, c'est la Caisse d'allocation familiale. La Caisse d'allocation familiale a également mobilisé une partie de ses moyens sur la prise en charge de la jeunesse, avec la nomination d'un conseiller technique jeunesse, créé en 2003, avec pour objectif de participer à la définition d'objectifs et à une mise en place d'une politique jeunesse à l'échelle de la Caisse d'allocation familiale, la volonté de mettre en œuvre des actions auprès de partenaires relevant de la politique jeunesse, essentiellement les collectivités locales, et puis participer à la gestion d'actions dans certains territoires et assurer leur évaluation. Comment les CAF agissent sur leur territoire? Eh bien, de la même façon, je dirais, que le Conseil général. Et c'est ça où c'est intéressant, c'est que les modalités d'action publique semblent être convergentes dans les choix qui sont entrepris. Alors là, avec un dispositif qui, à la différence des conseils généraux, où vous pouvez avoir des variations d'un département à l'autre, là, c'est quelque chose qui est relativement normé, parce que vous avez une politique nationale définie par la Caisse nationale des allocations familiales, qui s'applique à l'ensemble des caisses départementales. Alors, elle accompagne en fait l'ensemble des collectivités locales en développant toute une série de dispositifs contractuels, essentiellement les contrats enfance-jeunesse, dont vous avez ici la représentation en 2007 sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Là, les contrats enfance-jeunesse touchent, eux, 218 communes du département et bénéficient de l'aide de la CAF pour mettre en œuvre leur politique enfance-jeunesse. Donc, le relais de la CAF, mais qui est plus antérieur dans le soutien des politiques jeunesse, est beaucoup plus fort auprès des territoires et des collectivités locales que celui du Conseil général. Mais je pourrais dire que depuis les années 80, les CAF se sont déjà engagés dans une politique jeunesse. Alors que le Conseil général d'Ille-et-Vilaine n'en a fait sa priorité que depuis 2005. C'est sans doute là le hiatus et le niveau de participation différent d'un territoire à l'autre. Alors, l'action sociale des CAF s'inscrit également dans un schéma directeur qui a été pensé à l'échelle départementale et qui mentionne des territoires prioritaires d'intervention. Élément relativement important, puisque on constatera que la plupart de ces territoires prioritaires d'intervention sont des territoires ruraux situés au nord, à l'est et au sud du département, c'est-à-dire ceux où vous constatez ici que les contrats enfance ne sont pas encore suffisamment développés, et ceux où la CAF a constaté dans le même temps que l'encadrement social des populations jeunes était beaucoup plus ténu et que l'offre de services était très incomplète. Alors, voilà le contexte général dans lequel se situe notre réflexion. Maintenant, on va rentrer plutôt sur le volet pratique. Les pratiques de loisirs. L'entrée démographique nous a apporté un niveau de lecture intéressant. Maintenant, il convient d'entrer ou d'aborder un registre que je vais qualifier de plus sociologique, portant sur les pratiques et les usages des jeunes en matière de loisirs, notamment dans le cadre de leur temps libre. Alors, on va voir d'abord quelques éléments généraux sur les pratiques des jeunes. Ça, c'est ce que je peux ressortir d'une lecture générale, pas spatialisée, qui ne prend pas en compte les différentes catégories spatiales, mais qui permettent de ressortir un certain nombre de critères déterminants sur les pratiques de loisirs des jeunes. L'enquête qui a été menée par mes soins fait suite à le constat d'une relative lacune en matière bibliographique, en matière d'études spécifiques sur ces questions-là. Il y a très peu de recherches, enfin d'études et de recherches qui ont été menées sur l'analyse des pratiques des jeunes dans leur dimension globale. Vous avez des études sur les pratiques culturelles, vous avez des études sur les pratiques sportives, mais vous n'avez pas d'études qui permettent de voir la transversalité des pratiques à l'échelle de l'individu et à l'échelle de l'individu dans sa famille. C'était un peu l'objet de cette recherche. Donc nous avons travaillé sur à la fois les activités pratiquées à l'extérieur ou au domicile, en structure organisée ou dans un cadre plus ludique, tel que la lecture, regarder la télévision, pratiquer l'informatique, etc. On a regardé les activités sportives et culturelles, et on a regardé également d'autres activités sur lesquelles je n'aurai pas le temps de m'étendre aujourd'hui, non pas que je ne les ai pas traitées, mais parce qu'il a fallu, là encore, que je fasse des choix. Les activités festives et de consommation, les spectacles, les sorties, shopping, aller boire un pot, tout ça, ça a été au cœur de la réflexion pour essayer vraiment d'être transversal et de regarder les individus dans leurs différentes dimensions. Et puis les activités de sociabilité, rencontres entre pairs, échanges via les médias internet, etc., pour essayer de comprendre les différents réseaux sociaux des jeunes. L'ensemble est effectivement recensé en croisant individus d'une part, enfant par enfant ou jeune par jeune, et groupe familial d'appartenance pour voir aussi les déterminants sociaux du milieu d'origine des jeunes sur leurs pratiques. Alors, les résultats ont permis de mettre en évidence des facteurs contextuels déterminants sur la nature des pratiques. L'enquête a d'abord confirmé l'importance quantitative des activités pratiquées dans le cadre des loisirs quotidiens, ainsi que leur diversité sur le plan qualitatif. Les jeunes consacrent de manière générale une part importante de leur temps hebdomadaire, entre le temps physiologique, qui est lui incompressible, dormir, l'hygiène, enfin bref, tout ce qui est lié au fonctionnement physiologique de l'individu, et le temps scolaire de l'autre côté. Je me suis aperçu également, mais là il n'y a pas de scoop, que l'âge et le genre sont des variables essentielles dans la compréhension de ces pratiques-là. Par exemple, la diversification et la spécialisation des activités augmentent avec l'âge. Le temps personnel, par exemple, et sans contrainte, diminue, lui, au fur et à mesure de l'avancée dans le parcours scolaire. Ce processus est lié à l'accroissement progressif des obligations scolaires et sociales au fur et à mesure de l'avancée dans l'âge, mais aussi, autre élément important, l'élargissement des réseaux de sociabilité, qui motive de plus en plus de rencontres entre pairs, davantage de sorties et d'activités consommatoires qui se font au détriment des activités sportives, culturelles ou des activités encadrées pratiquées en dehors du domicile familial. On s'aperçoit aussi que le recours aux services d'accueil, alors je dis périscolaire, vous avez compris, autour de l'école, parce que souvent l'accueil périscolaire, on imagine que c'est pour les moins de 12 ans, avant et après la classe, enfin c'est la fameuse garderie, l'accueil périscolaire concerne aussi les plus âgés, même si la définition renvoie à une image qui concerne les plus jeunes, c'est quelque chose qui concerne aussi les plus âgés, avant et après la classe, et à toutes les activités organisées. Le recours à ces services encadrés, organisés, diminue également avec l'âge. Et autre élément important dans les pratiques spatiales et leur implication spatiale, on s'est aperçu que le périmètre d'action s'élargissait avec l'âge, avec une phase critique de ce point de vue-là, le passage au collège dans un premier temps, et surtout le passage au lycée dans un second temps. Donc, nous avons là des éléments relativement intéressants qui sont très généraux. Ensuite, des modalités d'organisation des familles qui ne sont pas indifférentes dans la façon qu'ont les jeunes de pratiquer leurs loisirs. On s'est aperçu, à partir d'un certain nombre d'entretiens assez pointus, qu'il y a forcément une dissociation de plus en plus importante, a fortiori en milieu rural, entre le lieu de résidence et le lieu de scolarisation. Elle se fait aussi de façon plus nette au fur et à mesure du passage au collège et au lycée, qui vont aboutir au final à un certain éclatement des espaces de vie des différents membres d'une même famille, et un emboîtement de différentes territorialités vécues par les parents et les enfants. Et ça rend les choses particulièrement complexes en matière d'organisation au sein même des cellules familiales. Les mobilités familiales quotidiennes, par exemple, s'articulent avec ces différentes territorialités et peuvent générer d'importantes tensions dans l'articulation des temps professionnels des parents, par exemple, et des temps scolaires des enfants, mais aussi de leur temps libre. Les sociologues ont parlé du temps parental taxi. C'est vrai que c'est un temps parental qui est très très important et qui est directement lié notamment aux pratiques de loisirs dans le cadre du temps libre. Il y a les pratiques scolaires, enfin les mobilités scolaires, mais aussi les pratiques dans le cadre des loisirs. Alors maintenant, on va se centrer sur la diversité des pratiques des jeunes ruraux. J'ai essayé de minimiser le nombre de tableaux. Donc dans cette partie, on cherche à mesurer l'impact du lieu de résidence des jeunes, notamment les jeunes ruraux, sur leurs pratiques de loisirs. De ce point de vue, les résultats de l'enquête sont nets. Vivre dans une grande agglomération, chef-lieu de département ou dans une petite commune rurale, ne procure pas les mêmes conditions d'existence aux familles, notamment en matière d'accessibilité aux services et activités mobilisées dans le cadre du temps libre. Quelles conclusions retire-t-on de l'enquête sur les pratiques des jeunes ruraux? D'abord, un niveau de pratique beaucoup moins important. Lorsque l'on englobe l'ensemble des activités et services relevant des loisirs, le taux de pratique des jeunes est beaucoup plus faible dans les espaces ruraux lorsqu'il est comparé aux communes périurbaines et urbaines. Plus de 90% des jeunes déclarent, par exemple, ne pas fréquenter une structure d'accueil de loisirs ou un club de jeunes. Ce pourcentage descend à 80-85% en ce qui concerne la fréquentation des bibliothèques et des activités culturelles. Donc, ça fait déjà un taux de non-fréquentation de ces services relativement élevé. Seules les activités sportives semblent les plus fréquemment pratiquées en milieu rural, où là, on aurait au contraire 54% de pratiquants. Alors, l'originalité des espaces ruraux ne s'observe pas spécialement sur les premiers équipements, accueil de loisirs, bibliothèques ou autres, où là, les taux de pratiquants sont assez proches de ceux constatés en ville ou en couronne périurbaine, mais sur les bibliothèques, les activités culturelles et la pratique sportive. Si la pratique sportive semble plus développée, elle reste inférieure au niveau constaté en milieu urbain et périurbain. La moindre diversité de l'offre de services et d'activités peut expliquer en partie ces écarts. Et en revanche, la fréquentation des accueils de loisirs et des clubs de jeunes, la faible participation, traduit aussi un retrait des jeunes au fur et à mesure de leur avancée en âge vis-à-vis des structures organisées. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui sont spécifiques au lieu de résidence et d'autres qui sont conformes en milieu rural à ce que l'on peut voir dans les autres milieux. par exemple, on va être très influencé par la configuration de l'offre qui va expliquer qu'on va être, on va avoir plus de pratiques sportives. Par contre, le fait qu'on se désengage progressivement des structures d'accueil encadrées, qu'on a des réseaux de pairs ou des activités de sociabilité de plus en plus fréquentes avec l'âge, n'est pas spécifiquement rural. C'est plutôt une caractéristique des jeunes eux-mêmes. En ce qui concerne les activités sportives, les pratiques sportives sont différenciées, là encore, selon le lieu de résidence des jeunes. Le nombre d'activités différentes déclarées est beaucoup plus restreint en milieu rural qu'en milieu périurbain et urbain. Alors là, ça s'explique par une plus grande diversité de l'offre en ville et par conséquent un choix plus ouvert pour les enfants et les jeunes. A contrario, la palette d'activités disponibles dans les campagnes est beaucoup plus réduite. Les communes rurales n'échappent pas à certaines tendances lourdes. La première activité sportive déclarée reste de loin le football, devançant très largement la piscine, le tennis et la danse. La danse est autant classée dans les activités culturelles que dans les activités sportives quand on ne prédispose pas de catégorisation dans les questionnaires. Quand j'ai regardé après les formes de catégorisation qu'utilisent les sportifs eux-mêmes dans les sports, la danse, il y a toujours une difficulté à la placer. Donc en fonction des spécialités et des types de danse, on est plutôt dans le versant culturel ou plutôt dans le versant sportif. C'est en milieu rural et périurbain que la fréquence de pratique du football est la plus élevée. Et cette activité, vous le verrez tout à l'heure, étant particulièrement développée sur l'ensemble du territoire départemental, elle peut souvent constituer parfois la seule réponse sportive dans les plus petites communes. En ce qui concerne les activités culturelles, les disparités s'expriment à peu près dans les mêmes termes. La proportion de pratiquants diminue progressivement, passant de 37% dans les communes urbaines à seulement 15% dans les campagnes. Donc la diversité des activités présente des caractéristiques très proches. 37 citations différentes d'activités en ville contre seulement 10 en milieu rural, ce qui montre aussi les écarts. Une fois de plus, ces résultats sont liés à la configuration de l'offre d'activités, laissant beaucoup moins de choix aux enfants dans les espaces et aux jeunes dans les espaces ruraux. Alors, j'ai travaillé après sur les activités ludiques du quotidien, mais je vois le temps qui passe. Ces activités regroupent bien tous les loisirs non encadrés tels que la télévision, la lecture de films ou de DVD, les jeux vidéo, l'informatique, activités de plein air, etc. Bien, la télévision reste très largement majoritaire, aussi bien par la proportion d'enfants concernés, plus de 80% de déclarants, que par le temps qui est consacré. En milieu rural, parce que j'ai fait aussi dans cette enquête, j'ai essayé de mesurer le temps hebdomadaire consacré à cette activité, à une forme de budgétant, même si cette méthodologie est un peu limite parce qu'elle renvoie à des réalités différentes selon la passation de l'enquête, ça donne quand même une indication de tendance. En milieu rural, la durée moyenne hebdomadaire est supérieure à celle des citadins et des périurbains en ce qui concerne la télévision. En ce qui concerne l'informatique, la musique et la lecture, les taux de pratiquants sont plus élevés en ville qu'ils ne le sont en milieu périurbain et en campagne. Donc, en revanche, la durée consacrée par les jeunes ruraux y est comprise souvent entre celle des urbains et des périurbains. Cela signifierait que si certaines activités sont moins répandues en milieu rural, elles vont quand même mobiliser les jeunes sur des temps plus longs. Et là encore, il est possible de relier ce constat au moindre recours des jeunes ruraux aux activités encadrées, notamment sportives et culturelles, ce qui fait que lorsque l'activité fait défaut, les solutions ludiques et informelles prennent le relais dans le quotidien des pratiques des jeunes. Troisième entrée, là on a vu les pratiques, ma première réaction c'était de dire est-ce que ça concorde avec l'offre de services et d'activités encadrées ? Nous allons voir, et c'est l'objet de la deuxième enquête, que l'offre de services en Ille-et-Vilaine, en matière de loisirs, est relativement polarisée. L'offre de services et d'activités à destination des jeunes va s'appuyer ici à partir de plusieurs exemples concrets. Alors je vous rassure, je n'ai pas construit cette démonstration uniquement à partir des exemples que je vous présente ici. Il y a eu un recueil de données statistiques auprès de plein d'institutions qui proposent des activités dans le cadre des loisirs et du temps libre des enfants et des jeunes. Et donc c'est bien le cumul de toutes ces informations qui m'a permis de ressortir ces différentes cartes. En matière de loisirs éducatifs, c'est la carte de gauche, donc les accueils de loisirs destinés aux jeunes âgés de 12 à 17 ans sont très inégalement répartis sur le territoire départemental, c'est le moins qu'on puisse dire. L'offre de ce type d'activité est essentiellement urbaine et périurbaine, vous le voyez très très bien, et elle est bien développée dans l'agglomération rennaise et sa périphérie, dans les aires urbaines de Fougères, Vitré, Saint-Malo, hein, dans une moindre mesure. Par contre, les secteurs ruraux du nord, de l'est, excusez-moi, du sud et de l'ouest du département sont beaucoup moins pourvus dans ce type de dispositif. En matière d'offres culturelles, vous avez à côté la carte représentant le réseau de bibliothèques. Alors, elle, pour le coup, elle contraste fortement avec la carte précédente, puisque la quasi-totalité du territoire départemental est couverte par la présence d'un lieu d'accès à la lecture. Là, il y a une originalité départementale, c'est qu'il y a eu un plan développement des bibliothèques dans le département, avec un soutien du Conseil général dans les années 80. On est passé d'une logique de bibliobus, que certains connaissent peut-être, à une logique de lieu de lecture physiquement installé dans chacun des territoires, et notamment à l'échelle de la commune. Donc ça a eu un impact d'un développement du réseau de bibliothèques, élément très important. Ceci dit, ce qu'on n'a pas ici, c'est qu'entre le lieu physique et l'amplitude d'ouverture de la bibliothèque, eh bien, il y a une marge relativement importante entre ce qui peut se passer en milieu urbain et ce qui peut se passer en milieu rural, où là, vous avez des permanences de bibliothèques beaucoup plus réduites dans le temps. Bon, c'est une donnée qualitative que je n'ai pas réussi à mobiliser sur l'ensemble du département. Donc, il ne faudrait pas être, impressionné par ce réseau de bibliothèques qui est quand même, dans sa dimension qualitative, sans doute moins disponible pour être mobilisé par les enfants et les jeunes dans leurs territoires ruraux. La configuration du réseau des lieux d'enseignement musical, autre dimension importante des activités culturelles. Alors, présente une moins grande homogénéité que le précédent. Vous le voyez ici, c'est la carte en bleu. Vous allez voir que plus on va avancer, moins le réseau va être bien développé. Ici, toutes les communes qui sont représentées en bleu disposent d'un lieu physique d'enseignement de la musique. Les grandes villes du département ressortent très distinctement à nouveau, ainsi que leur couronne périurbaine. Les espaces ruraux du nord, de l'est, de l'ouest, du sud du département sont en revanche beaucoup moins dotés. Néanmoins, originalité, la plupart des pôles ruraux et des chefs-lieux de canton des espaces ruraux bénéficient néanmoins d'un minimum de services, souvent intercommunaux. La localisation physique au chef-lieu du lieu d'enseignement ne doit pas écarter la fréquentation d'habitants des communes limitrophes. Donc il y a aussi d'autres formes de réalité spatiale qui peuvent être exprimées à travers ces documents. La carte qui suit est la carte relative à l'information jeunesse, élément important dans le parcours du jeune, pour son accès à l'autonomie, pour son accès aux dispositifs nécessaires à son information, à son orientation. Les services d'information jeunesse, soit point information jeunesse, soit bureau information jeunesse, présentent une distribution, alors là, pour le coup, relativement déséquilibrée, pour ne pas dire ponctuelle. En dehors des pôles urbains, tous équipés, les secteurs ruraux disposant d'un service sont majoritairement situés dans le sud du département. Là aussi, il y a des fois, le géographe ne sait pas forcément expliquer pourquoi il y a ce type de particularité spatiale. Je ne sais pas pourquoi dire plus le sud que le nord. Hein. La localisation ici montre très bien que un bon nombre du territoire, et notamment toutes les campagnes qui sont situées à l'ouest et au nord du département, ne disposent quasiment d'aucun équipement. C'est-à-dire qu'un jeune qui veut accéder à de l'information dans des champs aussi variés que ceux dont il a besoin, est obligé, quand il est au nord ou à l'ouest du département, de se rendre soit sur Saint-Malo, soit sur Rennes, ce qui pose un autre problème, qui est celui de la mobilité. Quand je vous disais tout à l'heure que les activités sportives étaient relativement bien développées sur le territoire, vous avez la carte des activités sportives. Cette carte montre que l'essentiel du territoire départemental est relativement bien couvert, mais on retrouve quand même toujours nos lacunes dans les espaces ruraux. Il y a quand même certaines formes de régularité, notamment au nord, ici, où c'est plus marqué, sur les marges méridionales, où là, vous allez avoir des lacunes plus importantes. Et autre élément important, la taille des cercles est proportionnelle à la diversité des activités sportives proposées. Et là, vous voyez par essence que la concentration de la palette d'activités est beaucoup plus forte en milieu urbain et périurbain. Et plus on s'éloigne dans les campagnes, plus le nombre d'activités diminue, pour parfois être unique sur bon nombre de communes. Et là, pour avoir regardé les fichiers commune par commune, quand il n'y a qu'une seule activité, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le football, vous en êtes à peu près certains. Hein, c'est une activité quasi universelle. Alors, ce n'est pas propre au département, d'ailleurs, je ne fais pas de scoop en le disant, mais souvent, c'est la seule offre possible en matière d'activité sportive. Alors, la carte qui suit est une carte de synthèse. J'ai essayé de construire un score à l'image un petit peu de l'inventaire communal en fonction d'une palette d'activités qui semble nécessaire dans le quotidien des enfants et des jeunes. Hein, alors surtout là des jeunes de 12 à 25 ans, puisque c'était en réponse à un appel d'offres du Conseil général, enfin une convention du Conseil général, pour vous montrer le score obtenu. Hein, moins de 2 activités ou moins de 2 services sur une base de 10 équipements structurants, hein, jusqu'à plus de 7. Donc plus les communes sont en brun ou en couleur soutenue, plus la palette d'activité est large, et au contraire, plus vous allez dans les jaunes ou dans les blancs, plus vous vous retrouvez avec un nombre d'activités inférieur à 3, hein, sur l'ensemble des 10 équipements différents retenus pour construire ce score. Je ne vous fais pas de dessin, les contrastes sont exactement les mêmes, les marges rurales sont ici de loin les moins bien dotées en services et équipements, excusez-moi, excepté quelques pôles ruraux qu'on va trouver ça et là, hein, notamment tous des pôles ruraux au sens de la catégorie spatiale définie par l'INSEE, qui constituent localement de véritables centres de services. Alors, la jeunesse dans les politiques locales. Parce que maintenant, cette offre d'activité, elle est aussi le reflet d'une volonté politique, hein, portée par les différentes communes. C'est l'objet de l'enquête qui a été faite auprès des élus, pour essayer de comprendre comment était appréhendée dans le champ des politiques cette question de la jeunesse. Le premier résultat est assez révélateur. La première question était simple. Dans le mandat municipal 2001-2008, la question de la jeunesse était-elle une priorité municipale? 53% des communes répondent non. Bien, c'est déjà un premier cadre révélateur, il faut affiner. Mais à une question fermée, oui ou non, 53% des communes, c'est-à-dire une légère majorité, déclarent ne pas avoir affiché, hein, la jeunesse comme une priorité municipale. Priorité ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'action en faveur de la jeunesse, on le verra après. L'analyse de ces résultats par type de commune amène des renseignements complémentaires intéressants, puisque le pourcentage de communes où la jeunesse est inscrite comme priorité est beaucoup plus élevé en milieu urbain, 9 communes sur 10, et décline progressivement pour être le plus faible en milieu rural, où un peu plus du quart des communes, hein, seulement déclarent l'avoir posé comme priorité. Il serait donc plus difficile de mettre en œuvre des programmes en faveur des jeunes dans les communes rurales d'Ille-et-Vilaine. Alors, l'analyse des actions mises en œuvre entre les communes enquêtées apporte quand même quelques précisions. La première action majoritaire, c'est la réalisation d'équipements et de structures d'accueil, qui arrive largement en tête. La réponse en équipement et en service, ce que j'appelle les murs, pour simplifier, est très largement dominante parmi les communes qui ont engagé une politique en faveur des jeunes. Après, vous allez avoir un deuxième registre, la mise en place d'animations à destination du public jeune. Dans ce cas, c'est des actions beaucoup plus variées, répondant à des préoccupations éducatives liées à l'âge, par exemple activités à destination des préadolescents, des adolescents, etc., liées à des besoins spécifiques, développement d'activités sportives, culturelles, mise en place de spectacles. Et puis enfin, beaucoup plus rarement, hein, les communes font allusion aux contrats engagés pour mettre en place leur politique jeunesse, notamment les contrats qu'ils signent soit avec la CAF, soit avec le Conseil général. Élément assez intéressant, c'est que pourtant il y a des dispositifs publics qui accompagnent une bonne partie des communes, elles ne sont pas citées comme des mesures faisant directement trait à leur politique jeunesse. Alors, en ce qui concerne les communes qui n'ont aucune action en direction des jeunes, ça aussi je m'y suis intéressé, plusieurs justifications ont été apportées, et la plupart de ces communes qui ne s'engagent pas en direction des jeunes sont à 75% des communes rurales. Premier motif évoqué, largement en tête, est lié à l'existence déjà d'une politique à l'échelle intercommunale, c'est-à-dire qu'on renvoie le fait que la compétence est déléguée à un niveau politique supérieur. D'autres élus locaux soulignent que leur commune est trop petite pour envisager ce type de politique. Cet argument est très fréquemment associé à des motifs démographiques, hein, et notamment, on a un faible potentiel de jeunes, donc de là à mettre en place une politique en faveur de la jeunesse, il y a quand même un grand pas à franchir. Et puis, il est possible aussi, il est enfin associé, excusez-moi, l'argument de la faiblesse des moyens budgétaires locaux qui rendrait impossible la mise en place d'actions. Alors, après, j'ai comparé la jeunesse dans les politiques locales à partir des différents dispositifs. Et à chaque fois, j'ai valorisé les communes rurales dans chacun des dispositifs. Quatre types de dispositifs, soit des actions en faveur des jeunes pour les accompagner dans leurs projets, c'est-à-dire pas faire des actions pour eux, mais faire des actions qui leur permettent à eux de répondre à leurs besoins. Des dispositifs d'aide à la mobilité des jeunes, des dispositifs en faveur de l'insertion et de l'emploi des jeunes, et des dispositifs en faveur de l'information et de l'orientation. Vous voyez que par rapport aux cartes qu'on a vues précédemment, c'est intéressant d'avoir le retour. Que voit-on ? Une commune sur cinq seulement, une commune rurale sur cinq seulement, est investie dans l'accompagnement de projets de jeunes. Le degré d'avancement des politiques jeunesse, notamment dans les centres urbains, montre que c'est surtout les villes qui s'engagent dans l'accompagnement des jeunes dans la réalisation de leurs projets. Ça, c'est un dispositif qui est faiblement développé, en commune rurale. 29% des élus ruraux déclarent développer des actions en faveur de la mobilité des jeunes résidant sur leur commune. Ça semble être une préoccupation qui concerne un tiers des élus. Alors, d'autres études montrent pourtant que cette question est cruciale. Donc on pourrait estimer que 29%, c'est encore une faible proportion. Parce que la mobilité, pour accéder aux services, aux activités dans le cadre du temps libre, est un élément qui est extrêmement important pour accorder une plus grande autonomie aux enfants et aux jeunes. Et l'appréhension de cette question par les élus locaux est très difficile aujourd'hui, mais je pourrais vous renvoyer aussi à l'appréciation des familles. Cette question de la mobilité est une question cruciale aussi dans l'appréhension des familles, parce que ça génère un certain nombre de contraintes. Ensuite, sur les autres dispositifs, vous allez voir que les communes rurales sont assez faiblement investies. Environ une commune rurale sur 10 déclare avoir développé des animations pour informer et orienter les jeunes ruraux. Ça rejoint la carte qu'on voyait tout à l'heure. Là, les communes rurales sont assez peu mobilisées sur ces questions d'information et d'orientation. Donc quand on veut s'informer et s'orienter, et quand on vit en milieu rural, on n'a pas d'autre choix que de s'orienter vers les communes urbaines ou périurbaines, qui, elles, proposeront un certain nombre de services. 7% seulement des communes, enfin, se sont engagées dans la mise en place de dispositifs d'insertion et d'accès à l'emploi des jeunes. Les politiques locales s'intéressant spécifiquement à l'insertion et à l'accès d'emploi des jeunes, ça ne va pas être un scoop non plus, sont essentiellement urbaines. Ainsi, si on regarde tout ça, les espaces ruraux, notamment ceux sous faible influence urbaine, sont sans aucun doute les territoires les moins avancés en matière de politique jeunesse. Le niveau de développement des services et des équipements et de réponse politique aux besoins des jeunes y est souvent très faible. Les arguments financiers, mais également démographiques, sont souvent cités pour expliquer l'absence de politique locale. Donc ces zones appellent sans doute un effort d'équité territoriale, non pas pour prétendre à un niveau d'équipement identique à celui des principales aires urbaines, c'est pas ça l'objectif, mais pour offrir davantage de ressources aux jeunes dans un rayon d'action de plus grande proximité. Parce que ce constat de la configuration de l'offre et du développement des politiques, il renvoie quand même à des taux de pratique beaucoup plus faibles en milieu rural quand on regarde la pratique du côté des jeunes.